Europe 1 Culture Média.
Philippe Vandel.
Merci de nous retrouver à 10h04 tout pile si vous nous rejoignez seulement. Et merci si vous étiez là depuis le début de l'émission à 9h04 tout pile à suivre. Notre invitée, c'est la chanteuse La Grande Sophie. On parle de son nouvel album La Vie Moderne et de sa tournée qui continue. Bonjour Olivier Benkemoun.
Bonjour Philippe Vandel.
Stéphanie Loire, bonjour.
Salut Philippe Vandel.
Et je salue également Jean-Luc Lemoine, bonjour.
Merci Philippe Toupil.
Jean-Luc, tous les jours vous intéressez à un programme pour nous, c'est votre session de rattrapage. Et aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, c'est moi qui ai envie de vous faire plaisir, vous faire écouter quelque chose pour le plaisir, comme disait l'autre.
Ah, j'adore, merci Philippe.
Ah oui, bah, je savais que ça allait vous
plaire. Bah ouais, je reconnais, en plus c'est la chanson de Shakira, c'est dans laquelle elle allume son ex pour ses infidélités. mais pourquoi vous me passez ça? Oh non Philippe, comment vous avez su? Bon d'accord, j'avoue tout. Oui, je vois quelqu'un d'autre pour faire des chroniques. Je vous trompe tous les après-midi avec Stéphane Bern. On s'est rencontrés dans les couloirs de la radio, j'ai tenté de résister, mais il n'arrêtait pas de m'aguicher en me montrant ses petits mollets de touron, et surtout en me disant que je serais payé. Mais puisque vous me lancez là-dessus, c'est l'occasion de revenir sur l'info qui mobilise toutes les rédactions en ce moment.
C'est la guerre entre Shakira et Piqué. Elle se poursuit. Jeudi dernier, la chanteuse colombienne a chargé son ex-compagnon dans une chanson...
Ah oui, BFM l'a annoncé, c'est la guerre. Hein. Alors, en attendant que l'ONU daigne réunir le Conseil de sécurité pour éviter toute escalade dans le conflit Shakiro-Piquéen, revenons un petit peu sur les faits. En juin dernier, après 12 ans de vie commune, Shakira et Gérard Piqué annoncent leur séparation dans un communiqué officiel. Le monde est sous le choc. L'Espagne et la Colombie rompent leurs relations diplomatiques. Des marches blanches sont organisées partout autour de la planète. Bon, ok, j'en rajoute un petit peu. Est-ce que vous savez comment, à l'époque, Shakira a appris qu'elle était trompée? Hein? Et pas parce que la maîtresse de Gérard avait fait une erreur fatale.
Elle a utilisé la balance de Shakira et Shakira a dit mais c'est pas mon poids. Non. Il y a donc une autre femme qui est venue se peser sur ma balance.
Et au petit-déj, le pot de confiture descendait trop vite.
Ah ça, non. Shakira, non, elle a
mais
pas.
Mais quelle idée d'avoir des balances digitales aussi. Exactement. Des balances comme ça.
Et le pot de confiture qui descendait trop vite.
C'est ça, exactement. Beaucoup trop d'indices d'un seul coup. Ça, Shakira, elle a pas aimé. Hein. Sa balance, elle voulait surtout que ce soit un baisse personne. Alors, vous êtes quel team, Philippe? Team Shaki ou Team GG?
Team pas d'emmerde.
Ok, d'accord. Bon, en tout cas, GG, c'est aussi les initiales des grandes gueules. Alors, Louis Gerbier a pris parti.
Bah en tout cas, depuis, ils sont divorcés.
Hein. Il est un peu con, quand même, Piqué.
Aïe, aïe, aïe.
Piqué, eh, oui. Le problème, c'est pas d'avoir trompé sa femme, c'est de l'avoir mal fait, quoi, merde.
Tu remplis,
c'est
mieux que ça, c'est mieux que
ça. Ouais, Shakira l'a beaucoup marié. Après avoir réclamé le respect de leur intimité, la chanteuse a évoqué plusieurs mois plus tard sa rupture dans une première chanson qui s'appelait Monotonie.
Fue culpa tuya, ni tampoco mía. Fue culpa de la monotonía.
Alors, comme je sais que vous avez fait espagnol LV12, hein, j'ai traduit pour vous les paroles. Ce n'était pas de ta faute, ni de la mienne non plus. C'était de la faute de la monotonie. À ce moment-là, la chanteuse était clairement au fond du ravin. Hein. Dans le clip, elle erre en sarouel dans les rayons d'un supermarché, en mangeant des chips qu'elle humidifie avec ses larmes. Niveau humeur, c'était Valérie Pécresse après les élections, quand elle voulait rembourser ses frais de campagne. Depuis, Gérard Piqué s'est affiché avec sa nouvelle petite amie, une étudiante de 22 ans. Et là, Shakira a changé de stratégie. Maintenant, ça tacle au niveau de la glotte, comme nous l'explique BFM.
Un gros tacle à propos de sa nouvelle compagne. Tu as changé une Ferrari pour une Twingo, une Rolex pour une Casio. C'est ce que chante Shakira, écoutez.
Alors en réponse, devinez avec quelle voiture Gérard Piqué s'est pointé au travail.
Twingo.
Soit une Ferrari, soit une Twingo.
Une Twingo. Et en pleine interview, devinez ce qu'il avait porté au poignet.
Une Casio.
Mais non, une Twingo aussi. Non, une Casio bien sûr. Vous ne croyez pas? Eh ben, c'était même dans la matinale de Samuel Etienne sur France Info.
Il a acheté une Twingo et il a un partenariat aussi. Avec Casio maintenant.
Enfin, c'est devenu un peu...
Mais où va le monde?
Je pense que cette histoire, il faut en faire un film.
Oui, où va le monde, Philippe? Bon, en tout cas pas au cinéma avec Samuel Etienne, parce qu'on n'a pas envie de le voir, ce film. Je sais pas, Olivier Benkemoun, s'il est d'accord avec ça. Et Gérard Piqué n'est pas le seul à avoir trollé la pauvre Shakira. La marque aux losanges a répondu sur Twitter « Renault Twingo vous soutiendra toujours Shakira. N'importe où et n'importe quand. » C'est plutôt gentil. Et de son côté, la marque de montre Casio a répondu « Shakira. Nous ne sommes peut-être pas une Rolex, mais nos clients, eux, sont fidèles. »
Mais non.
Mais si, ils ont vraiment fait ça. Pour finir, sachez que c'est la nouvelle tendance 2023, hein, régler ses comptes avec son ex en chanson, puisqu'avant-hier, Victoria Meo, que tout le monde connaît,
Non. J'ai honte.
Non. Pas enfin, si.
C'est qui?
Ancienne candidate des Marseillais aux Caraïbes.
Ah oui, bien sûr.
Ça passait sur Arte.
Oui, c'est vrai. Ouais. Hein? Évidemment.
Bon, peu importe. Elle a sorti une chanson pour régler ses comptes avec son ex, Bastos. Oui, je sais, il n'y a rien qui va dans cette phrase. Alors, la différence, c'est que contrairement à Shakira, elle fait moins dans la métaphore. La chanson s'appelle Gros Clochard. Encore une histoire de business, il est beau l'amour.
Oh là, j'ai pas besoin de ton aide pour faire de l'argent, gros clochard. Merci beaucoup Jean-Luc. C'était le texte, non, mais c'est dingo le texte.
C'est vous qui l'avez signé Philippe, le texte.
Pas du tout, non, Jean-Luc note et je me dis mais c'est pas possible ce texte, il y a quelqu'un qui dit ouais c'est super, on l'enregistre, on en est là. Vous...
C'est terrible parce que ça rend dans la tête.
Ouais, c'est terrible.
J'ai pas besoin de ton aide.
Ouais.
Pour faire de l'argent. Dingo. Jean-Luc, de 16h à 18h, vous serez avec Monsieur Joli Mollet.
Exactement, mon amant.
Stéphane Bern sur Europe 1. Merci et vous serez demain, j'espère, dans l'émission aux alentours de 10h. Stéphanie Loire, votre indispensable ce matin.
Étienne Dao nous ouvre les portes de ses armoires intimes avec un livre qui s'appelle Le Secret Book, qui est signé par une journaliste qui s'appelle Sylvie Comin. On va traverser ce livre ensemble, plonger dedans.
J'ai la même question pour vous, Olivier Benkimou.
Déjà, Team Chaki, ouais. Déjà. Et ensuite, je vous parle de Babylone, parce que tout le monde parle de Babylone. C'est le nouveau film de Damien Chazelle, celui qui avait fait La La Land. Il s'agit de sexe, de drogue et de films muets.
Et de Brad Pitt.
Et de Brad Pitt, ouais. Bien sûr.
Vous l'avez vu, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Il nous dit ça juste après ça. On sera avec la grande Sophie pour nous parler de son dernier album, La Vie Moderne, que j'ai ici. Il y a même un vinyle. On écoute tout de suite le titre La Mère, la grande Sophie sur Europe 1.
Europe 1, Culture Média.
9h-11h.
Philippe Vandel.
La grande Sophie, bonjour.
Bonjour.
Ça fait toujours bizarre de dire bonjour la grande Sophie. Bonjour Sophie.
Voilà.
C'est vos amis qui vous appellent la grande Sophie quand vous avez démarré, c'était dans les bars, quand vous commenciez à faire la tournée des bars avec votre gratte.
Ouais, c'est un groupe de filles qui s'appelle les Maximum Quats.
Ouais.
Qui m'ont surnommé comme ça parce qu'à l'époque, on donnait des concerts un peu partout, dans des endroits improbables, d'ailleurs des squats, des lieux minuscules. Elles m'ont dit, écoute, viens chanter. Et sur l'affiche, on a mis la grande Sophie. Et c'est là que ça a été une révélation. Tu sais, quand tu cherches un pseudo, c'est compliqué.
Ouais.
Et là, je me suis dit, c'est bien, ça parle. C'est un peu moyenâgeux. C'est l'image. Voilà. Et j'ai voulu garder ça. Et je me suis battue pour le garder même. Parce qu'après, on a voulu me faire changer.
Ah bon? La maison de disques?
Ça m'est arrivé, oui. À une époque, on m'a dit, bon, écoute, tu peux pas changer de nom. Et j'ai dit, ah non. Non, je l'assume entièrement. Voilà, je...
Vous appelez toujours Sophie, vous êtes toujours grande, vous êtes chanteuse, auteur, compositeur. Tout le monde connaît ce tube du courage.
Du courage, du courage, du courage.
Mais évidemment, vous n'êtes pas la chanteuse d'un seul titre, d'un seul tube. Au contraire, longue carrière désormais. Victoire de la musique en 2005, 3 disques d'or. Et votre actu, c'est ce nouvel album, le 9e, il s'appelle La Vie Moderne. Nouvel album dont on vient d'entendre le titre La Mer. Et puis grosse tournée à venir au printemps qui a déjà démarré. On va en parler, mais d'abord... Ce CD, ce vinyle, il existe en deux versions. La vie moderne, c'est quoi? Ce sont les réseaux sociaux. La vie moderne, c'est la musique en streaming. C'est le confinement. C'est quoi la vie moderne?
La vie moderne, pour moi, c'est un peu ma position. C'est-à-dire qu'évidemment, un jeune ne peut pas appeler son album La Vie Moderne puisqu'il la vit, il est dans la vie et puis c'est son époque. Sauf que moi, j'ai suffisamment d'ancienneté, on va dire. Pour...
Vous avez déjà l'impression d'avoir un pied dans chaque époque.
Ah oui, non, mais surtout avec, il y a eu une accélération, je trouve, après ce qu'on a vécu, le Covid. Il y a eu une accélération dans un monde aussi virtuel avec des outils que j'essaie d'utiliser aussi parce que ces outils-là, j'ai envie de vivre mon époque aussi. Donc oui, c'est les réseaux sociaux et puis c'est tout ce qu'il y a eu avant. Moi, j'ai connu le 4 pistes.
Ouais.
Donc je fais un grand écart entre deux époques que j'essaie de relier. Je ne les éloigne pas, je ne les sépare pas. Il y a du bon et du mauvais dans les deux époques. Donc voilà, mon rôle à moi, c'est je suis là, je vis les deux, comment on les rassemble.
Pour qui ne connaît pas la technique et pour les jeunes qui nous écoutent, le 4 pistes, c'est un petit magnéto sur cassette qu'enregistrait pour faire des maquettes en 4 pistes. Maintenant, il n'y a plus de bandes, il n'y a plus de cassettes, tout est virtuel dans des ordis. L'album débute avec le titre « Ensemble ». Si j'ai bien compris, il s'adresse à votre public ce titre. Vous l'avez composé quand et comment, et surtout quand
Bah, le premier jour où on nous a annoncé le confinement, c'était le 16 mars 2020. Il est daté, ce titre. Ouais. Parce que j'ai, bah, évidemment, avec ce qui nous tombait sur la tête, j'ai voulu un petit peu comme du courage, ma chanson, j'ai voulu donner du courage aux gens. J'ai essayé de donner de l'espoir en disant, on va s'en sortir. C'est, voilà, c'était dingue. Et j'ai écrit la chanson très rapidement ce jour-là.
Ouais.
Je l'ai balancée sur mes réseaux en disant, bon, écoutez, elle est pas finie, mais j'espère que ça va vous donner ce courage-là.
La version qu'on entend, c'est la version pas finie, parce que parfois,
non, là, c'est la version finie qu'on
parce
entend.
Parce que parfois, la maquette est plus forte que le mix, vous savez ça?
Alors, oui, il y a l'intention d'une ouais. maquette. Le premier jet, moi, souvent, d'ailleurs, je garde mes premières voix parce que je fais mes maquettes à la maison. Ça m'arrive de garder ça. Il y a une magie aussi quand on se lance dans une interprétation. Parfois, la vérité est dans les premiers.
Ensemble, on écoute bah, justement le début. Vous avez vraiment eu peur, pardon de parler sur la chanson, mais sinon on ne peut pas vous entendre votre voix quand vous parlez. Vous avez vraiment eu peur que tout s'arrête pendant le confinement, qu'il n'y ait plus de concerts, plus rien.
Ouais, c'est ce qui m'a beaucoup effrayée. J'ai vu que, et c'est normal d'ailleurs, tout le monde essayait de garder un lien à travers nos smartphones, de donner un...
Oui, mais le gouvernement nous disait, c'est 15 jours, c'est 3 semaines, Jean Castex venait faire des points réguliers, vous n'avez pas cru, vous êtes dit, je vais rester là pendant des années, enfin là, c'est-à-dire chez
non,
vous.
Non, je ne me suis pas dit ça, parce que je me suis dit quand même, à un moment donné, il va falloir vivre aussi avec le truc, mm-hmm. quoi. Mais ce qui se passait à l'intérieur de nos écrans, je trouvais ça très triste de s'enregistrer face à son petit bout de plastoc, là.
Ouais.
Et moi qui connais la scène en plus, le regard, une ambiance, et là, je trouvais ça d'une tristesse. J'ai eu peur, comme ça se faisait beaucoup, que les gens prennent l'habitude de ne regarder les concerts que comme ça.
Tout l'album a été composé pendant le confinement ?
Non, pas que. Moi, j'ai déjà, ma tournée avait été stoppée, et dès qu'on pouvait reprendre, on est retourné sur la route. J'ai écrit au fur et à mesure.
Comment vous avez fait pour les musiciens ?
C'est-à-dire ?
C'est vous qui jouez tous les instruments ?
Ah, alors, j'ai travaillé avec... j'ai un partenaire qui s'appelle Yann Gazi, qui a été un petit peu mon guide sur cet album. Et lui voulait que je fasse tout. D'ailleurs, il m'a dit, bon allez, j'ai envie qu'on retourne en studio, tu vas tout faire et tout. Au début, j'ai dit ouais. Et puis quand j'ai fait mes maquettes, moi je fais mes programmations de batterie, tout ça. Mmh. J'ai dit, mais attends, là, je suis pas batteuse, franchement. Je suis ni bassiste, ni batteuse, donc on va prendre les copains. Et on est allé, c'est un enregistrement assez familial. J'ai fait à la maison, après on est allé chez Yann, après, voilà.
À la maison, je voudrais savoir comment ça s'est passé pour les voisins. La grande Sophie va nous le dire. Ça s'appelle La vie moderne. À tout de suite sur Europe 1.
9h, 11h.
Europe 1, Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie de la grande Sophie, son nouvel album, le 9e, La vie moderne. C'est un album, on parlait du confinement. La première chanson a été écrite le premier jour du confinement. C'est un concept album façon années 70. Où est-ce que vous avez écrit des chansons et puis vous les avez agrégées pour en faire un album? Ou est-ce qu'au contraire, vous êtes parti avec une idée derrière la tête, celle de cette vie moderne?
Alors déjà, quand j'ai écrit Ensemble, il y avait une guitare folk évidente. J'ai voulu quelque chose de très chaleureux, garder ma guitare acoustique. Et j'ai imaginé en fait toutes ces chansons que j'ai écrites les unes après les autres. Je les ai imaginées comme si j'étais autour d'un feu de camp. Et j'avais cette idée-là, voilà, je me suis dit, ah, c'est chaleureux. Et après, quand je suis montée sur scène, quand j'ai réfléchi à la scénographie, je me suis dit, écoute, j'ai dessiné ce feu de camp. Mais je voulais qu'il soit moderne, donc il est avec des néons, tout ça. Et je me suis dit, bah vas-y, mais montre ton idée, ce que tu avais en tête aux gens. Et donc, tout le concert se passe autour de ce fameux feu de camp.
Dans l'album, vous parlez de vous. Il y a ce titre, L'escalier. Ça démarre fort, ça commence comme ça.
Tu seras balayé, tout comme moi. Balayé, tu iras balayé. Devant ta porte, tu apprendras à pagayer. Tu auras les deux pieds dans l'eau, mais je le sais, tu relèveras la tête. On passe tous par là, la vie c'est comme ça. Des hauts puis des bas, ça ne fait pas débat. On prend l'ascenseur, tout à 100 à l'heure. Pour descendre, c'est l'escalier. Tu seras adulé, tu boiras du petit lait. Apprends à pédaler, car tout ça ne dure pas. Tu seras...
Tout ça ne dure pas, ça parle du succès, ça parle de la chanson.
Oui, ça parle aussi beaucoup que la société a encore du mal à voir, à accepter que les gens vieillissent, prennent de l'âge. On a tendance un petit peu à les mettre de côté, je trouve. Alors que, encore une fois, je l'ai dit, moi je suis là pour à relier les mondes et j'ai besoin de la parole des anciens, j'ai besoin de la parole des jeunes. Et je comprends pas parfois pourquoi on a cette tendance à vouloir balayer les gens. Ouais.
C'est étrange de parler de ça justement alors que l'actualité c'est les retraites et les grandes manifs de demain sur les retraites. Ouais. À quel âge on est bon pour la casse? À quel âge on doit partir?
D'ailleurs, j'avais une chanson sur mon premier album, je disais « Quelle sera ta retraite? Il faut cotiser », elle s'appelle Alors, vous pourrez l'écouter.
Et alors vous avez cotisé? Comment ça se passe quand on est artiste? On a des caisses de retraite ou est-ce qu'au contraire on se retrouve à la fin de sa vie? Il y a plein de chanteurs. Je me souviens une fois j'avais interviewé Jean Pia et le type avait tellement mal cotisé, les lois n'étaient pas les mêmes auparavant, qu'il était obligé, c'était aussi un plaisir, mais il avait 80 ans et il montait encore sur les scènes de théâtre, en partie par plaisir et en partie pour payer son loyer.
Il y a des caisses de retraite, oui, mais on sait très bien qu'on n'aura pas grand-chose quand même.
J'aurais jamais pensé parler de caisses de retraite avec une artiste dans cette émission, c'est une première. Mais attendez, quand même, vous êtes privilégié, parce que vous dites on est passé cette limite, votre ticket n'est plus valable, et il y a une date de péremption, pas du tout. Et même chez les femmes, Véronique Sanson, Françoise Hardy ou d'autres, elles font toujours une carrière, elles sont toujours là.
C'est très dur de faire une carrière, en fait, c'est ce que je veux dire aussi. C'est la difficulté, c'est-à-dire qu'écrire une chanson, faire un premier album, c'est difficile d'avoir un public, mais une fois qu'on passe le deuxième, le troisième, de durer, c'est extrêmement difficile, surtout quand tout va vite comme maintenant.
Oui, mais est-ce que vous avez l'impression que parfois, certains médias pensent qu'il y a une date de péremption?
Oui, clairement. Clairement, oui, je le dis haut et fort. Parfois, on veut pas m'entendre même. Mais oui, je ça se sent en fait. C'est oui. Et il y a des progrès à faire.
Et autre chose qui vous énerve, vous dites, ça vous énerve de lire dans les magazines les actrices qui disent moi, j'ai jamais été aussi bien qu'à 50 ans. Pourquoi ça vous énerve?
Bah parce que moi, je l'ai pas du tout vécu comme ça. Je trouve que c'est une période très charnière et encore une fois, c'est sociétal. On vous le fait sentir, c'est énorme, c'est vraiment énorme. Alors, est-ce que plus quand on est une femme ou un homme, je ne sais pas, faut poser la question aussi aux hommes de ma génération. Mais clairement, il y a quelque chose qui va pas, oui.
La Grande Sophie, avec nous, on va parler de musique, on va parler d'un livre sur Étienne Daho, on va parler de cinéma. Que vaut le film Babylone? C'est Olivier Ben Kemoun qui va nous dire. Quelle belle dernière demi-heure de Culture Média aujourd'hui. La Grande Sophie avec nous, à tout de suite.
9h, 11h,
Europe 1, Culture Média.
Philippe Vandel.
En compagnie de La Grande Sophie qui sort son disque La Vie Moderne, nouvel album, c'est son 9e. On va parler de musique, musique et un peu littérature, en tout cas livre, avec vous Stéphanie Loire.
Bonjour à tous,
bonjour La Grande Sophie. Vous avez devant vous un livre consacré à Étienne Daho. Sophie, vous le connaissez, Étienne Daho?
Alors il est venu me voir à un Olympia et j'étais il est extrêmement gentil, il avait proposé à mon équipe de le rejoindre même chez lui et donc on était tous partis là-bas et moi j'étais un peu malade quand j'avais fait ce concert, donc à la fin je n'avais plus de voix et c'était horrible parce que j'ai passé la soirée chez lui, je ne pouvais pas parler. Et lui il me faisait des petits cocktails avec du miel. Donc ça a été je n'ai pas pu communiquer avec lui, je n'avais plus de voix.
Vous avez écrit des petits messages sur des beaux morceaux de papier comme à l'école.
En tout cas, il était très attentif et il a pris soin. Il a essayé de faire ce qu'il pouvait, mais voilà.
Ouais, tiens, vas-y, Sophie.
Merci, Étienne, encore une fois.
Prends du miel, tu vois, ça te faire du bien.
Philippe Vandel, qui est l'imitateur officiel d'Étienne Daho.
C'est la seule personne que je sais un peu imiter et très très mal. Donc, votre coup de cœur du jour, Stéphanie, c'est un livre consacré à Étienne Daho, publié aux éditions de La Martinière.
Voilà, je vous le laisse, si vous voulez le consulter tous les deux, tous les trois, puisqu'Olivier Ben Kemoun est là. Alors, c'est un très bel ouvrage. Il s'appelle Étienne Daho, au Secret Book. C'est Sylvie Comin qui le signe, une journaliste, un livre qui est préfacé par Elie Medeiros, avec qui Daho a collaboré, entre autres, qui fourmille d'anecdotes, de souvenirs qui retracent la vie, la carrière du chanteur-compositeur de son enfance à Oran, en passant par la publication de son tout premier album Mythomane, rappelez-vous Mythomane, c'était en 1981, jusqu'à son titre Virus X, inspiré par le Covid, publié l'an passé.
J'ai besoin de me démasquer.
Ces livres, il nous offre 384 pages en tête-à-tête avec l'artiste mythique de la pop française. Moi, je signe pour un tête-à-tête avec lui de 384 pages. Je me le suis offert d'ailleurs. Cet artiste a la personnalité solaire, discrète. C'est d'ailleurs la première fois que Daho ouvre ses archives perso alors qu'il vient de fêter ses 67 ans. C'était le 14 janvier dernier, son anniversaire.
67.
Vous y étiez, Philippe?
Non, je n'étais pas invité.
Et pour convaincre ceux qui...
Il m'a dit la dernière fois que j'ai invité quelqu'un, j'ai invité une meuf après son Olympia, elle n'a pas parlé.
Ah, donc, je pas.
pour convaincre ceux qui se demandent ce qu'on peut encore apprendre sur Étienne Daho alors qu'il fait partie de nos vies depuis 40 ans, eh bien, sachez que ce sont des archives pour la plupart inédites car strictement personnelles. Daho a ouvert ses armoires, il nous révèle des courriers, des photos intimes, des télégrammes. Pour les plus jeunes qui nous écoutent, le télégramme, c'était après le morse et c'est avant les messages WhatsApp. C'est
exactement,
entre les deux.
Exactement, mais ça existait.
Daho, il nous dévoile des affiches de concerts, des coupures de journaux, des manuscrits. Alors, je vous donne quelques morceaux choisis pêle-mêle de ce que j'ai aimé découvrir dans ce livre. On le voit en photo à 13 ans, blouson de cuir et bandana, immortalisé dans un photomaton. Cette photo, elle est géniale au tout début. On y parcourt un de ses devoirs d'élève de terminale consacré à la Chine, qui lui a valu un 13 sur 20. On y apprend aussi que lorsqu'il joue à l'Olympia pour la première fois en 1985, ses tantes réservent tout un rang entier de peur que la salle ne soit pas pleine. Et au final, l'Olympia est plein à craquer parce que des titres comme Le Grand Sommeil ou encore celui-ci, Weekend à Rome, rencontrent déjà un grand succès.
Chanson ritale pour une escale. Weekend à Rome.
Ce livre, il a un coût.
Ah oui.
Près de 50 euros. Voilà, c'est du marketing, hein, 49,90.
Ouais.
Mais on en a pour son argent. Alors, il est parfois légendé par Daho lui-même, mais la majorité des jours de la vie de Daho sont racontés par la plume de son amie de lycée, la journaliste Sylvie Coma. Elle y écrit au sujet de l'artiste une phrase qui le résume assez bien, je trouve. Daho a réussi l'exploit de faire sauter les lignes de démarcation entre l'underground et la pop française dont il est devenu le parrain. C'est fortiche. Et c'est,
ouais, c'est quelqu'un de très curieux.
Oui. Il vous a inspiré parfois ?
Je peux pas dire qu'il m'a inspiré dans mes chansons, mais en tout cas c'est quelqu'un que j'aime écouter, bien sûr. Je l'ai vu en concert aussi.
Et qui est encore très ouvert à ce qui se fait sur la nouvelle scène, qui fait beaucoup de duos. Son amie de toujours, la journaliste, nous raconte qu'à l'âge de 8 ans, Étienne Daho quitte Oran avec sa famille, il part habiter en France, à Reims, puis à Rennes. Il achète deux disques qui vont bouleverser son existence. The Velvet Underground et Nico, avec cette fameuse banane d'Andy Warhol sur la pochette, juste pour le kiff. Et second disque fondateur que Daho s'offre, un album publié le 5 août 1967, je sais que vous êtes très fan Philippe, le premier album de Pink Floyd, The Piper at the Gates of Dawn, c'est Syd Barrett qui aurait fait pousser les racines rock de Daho. Tu as un point commun avec nous.
J'adore, et j'adore aussi les premiers Pink Floyd, j'adorais, avec Syd Barrett.
Étienne Daho, en 2023, il a un beau planning, hein, il fourmille de projets, il est grand ambassadeur des marinières, je ne sais pas si vous avez vu,
non.
Il vient de signer une collection de capsules pour la marque Saint-James,
ouais.
Je ne sais pas comment ça se prononce.
Comme
bon.
Ça.
Et son prochain album devrait sortir au printemps 2023, il va s'appeler Tirer la nuit sur les étoiles, l'occasion d'ailleurs pour moi de lui consacrer un numéro spécial d'Iconique sur Europe 1 en avril.
Il est chez Barclay.
Ouais.
Comme vous.
Exactement,
oui. Hein.
Ouais, et puis c'est quand même la pop française par excellence.
On est d'accord. Et vous êtes chez Barclay, ce qui fait vraiment un joie, c'est qu'on retrouve le logo initial de Barclay, créé par le grand Eddie Barclay. Merci beaucoup Stéphanie, on vous retrouve tous les samedis, tous les dimanches de 16h à 17h aux commandes de musique sur Europe. Et merci
et ici,
pour
demain.
Le livre. Dans un instant, oui, ce serait demain dans l'émission. Dans un instant, on parle d'Hollywood avec notre deuxième indispensable, c'est Olivier Benkemoun. À tout de suite.
9h, 11h.
Europe 1, Culture Média. Philippe Vandel.
Toujours en compagnie de la grande Sophie, la vie moderne, on a parlé de cet album, on va parler des concerts, de la série de concerts avec votre feu de bois, avec des néons. Mais d'abord, on parle de cinéma. Bonjour Olivier Benkemoun.
Bonjour Philippe.
Babylone, la grande Sophie, vous étiez invitée à l'avant-première.
Oui, j'ai reçu un super carton pop-up,
ouais.
Tu vois, qui se déploie. Je ne pouvais pas être là, malheureusement.
Ah, moi aussi, je l'ai reçu maintenant, j'y pense. Vous êtes allé ou pas?
Je ne pouvais pas, non.
Ben, moi, je pouvais, mais je ne suis pas allé.
Moi, je n'ai pas été invitée, si ça intéresse quelqu'un.
Non, c'est pour dire qu'en revanche, Olivier Benkemoun y était, et vous surtout. C'est
moi,
ça
je n'étais pas à l'avant-première, monsieur.
Mais vous avez vu le film.
Oui,
c'est ça le plus important.
Mais on va commencer par un exercice musical. Tiens, je vous fais écouter quelque chose. Est-ce que ça vous rappelle quelque
chose?
Ah
oui, La La Land.
Complètement.
Ah oui,
c'est fait de la même manière. Ça.
Exactement.
Bon, ça sent Damien Chazelle. Voilà, ouais. La La Land, tout le monde se souvient. Hommage formidable au cinéma, déjà. Et Babylone, c'est le nouveau film de Damien Chazelle. C'est toujours la musique de ce fou de jazz de Justin Hurwitz. Et c'est aussi un hommage au cinéma. Pour être précis, c'est à la fois un hommage, mais aussi un anti-hommage.
Quand je suis arrivé à Los Angeles, il y avait marqué sur toutes les portes « Interdit aux acteurs et aux chiens ». J'ai changé la donne.
Ton visage est tatoué sur mon dos.
Voilà le ton, ça se passe à la fin des années 20, en 1928 exactement. Que s'est-il passé en 1927 et 28 à Hollywood ?
Le parlant ?
Est sorti exactement le premier film parlant. Une révolution. Une révolution qui va tout emporter sur son passage, mais qui va surtout emporter les stars du muet qui n'y croyaient pas, qui étaient tellement haut et tellement loin dans leur galaxie que lorsqu'ils vont tomber de leur étoile, ils vont vraiment se fracasser violemment. Et c'est ce fracas, la violence de ce fracas que raconte Damien Chazelle. Ces grandes stars du muet, comme le personnage de Brad Pitt, qui est en fait le prototype qui était à Paris. Hein. Pour ceux qui n'étaient pas à l'avant-première, voilà, lui, il y était. Et vous, non. Bon, qui est vraiment le prototype de la superstar. Une propriété incroyable, beaucoup d'argent, des caprices, beaucoup de femmes, beaucoup de divorces, donc beaucoup d'intérêt pour sa personne de la part de la presse People, admirée par les femmes, admirée par les hommes. On veut y côtoyer également une jeune femme, jouée par Margot Robbie, qui représente l'incarnation des ambitions. Prête à tout, séduction des producteurs, audace, tempérament, prête à faire carrière en usant de ses charmes, de tous ses charmes, de beaucoup de ses charmes, de son corps, de son sex appeal, enfin vous avez compris. Bref, une jeune actrice quoi.
Mmh. Ouais, vous les machos à grosse burne, qui veut me voir affronter un serpent à sonnette ?
Putain, ouais !
Voilà, c'est ça Margot Robbie, enfin son personnage.
On dit Margot Robbie ?
Oh Margot, Margot, vous dites comme vous voulez. Et pourquoi je vous disais que c'était l'anti-la-la-lande ? Parce que Babylone, ça raconte l'autre côté du miroir. L'ambition, la perversité sexuelle, la manipulation, les zones d'ombre avec la mafia, le racisme, les blackface. Par ailleurs, et Damien Chazelle s'est beaucoup documenté, tout était excès. Les fêtes étaient excessives d'alcool, de drogue, de sexe, presque orgiaque, Sodome et Gomorre, quoi. Les premières 40 minutes du film, et c'est dommage que vous n'ayez pas vu ce film, encore une fois, à l'avant-première avec Brad Pitt. C'était une fête comme moi, j'en avais jamais vu au cinéma. C'est une fête. Les 40 premières minutes, c'est une fête incroyable. Ça rentre directement au sommet de mon top 10 des scènes de fête au cinéma.
Plus que The Party et tout.
Plus que The Party. Ouais. Il y a tout, il y a l'excès. En plus, il y a la chorégraphie, parce que c'est ça aussi sa marque de fabrique dans La La Land. Vous vous souvenez de la chorégraphie ? C'est une orgie chorégraphiée. C'est incroyable. Il y a une autre scène qui est formidable dans le film. On est sur le tournage d'un film muet. Gros budget, bataille. Il y a des milliers de figurants. Il y a des chevaux. C'est en décor naturel. Il y a la pression du temps, du soleil. Il y a les consignes qui sont données aux figurants. Et à l'époque, on n'a pas de talkie-walkie, évidemment. C'est très compliqué. Et quand on utilise des explosifs pour ce genre de scène de bataille, ça explose vraiment. Donc il y a eu des accidents tragiques. C'est parce que c'est aussi un hommage. C'est un hommage au cinéma. C'est un hommage au courage, à l'ingéniosité de ces productions, à la ténacité des réalisateurs. Une lettre d'amour à tous ceux qui n'ont pas survécu, disait Damien Chazelle ce week-end dans le JDD. Et c'est exactement ça, Babylone.
Et pourquoi ça s'appelle Babylone ?
Alors ça fait référence, je vais terminer par ça, à un livre qui s'appelait Hollywood Babylone, livre assez incroyable qui a été censuré aux États-Unis, partiellement édité en France, et qui est le premier à avoir révélé les affaires sordides des studios, la drogue, les viols, les déclins des carrières des grandes actrices du muet, les mariages forcés, les suicides, les liens avec la mafia, etc. C'était signé de l'américain Kenneth Anger, né en 1927, l'année précisément du passage du muet au parlant.
And camera.
And music.
Voilà, et sur le même thème, vous pouvez toujours revoir The Artist. C'est très différent, mais ça racontait aussi cette histoire des comédiens du muet.
Oui, film oscarisé.
Absolument.
Film de Michel Hazanavicius et muet totalement. Ça vous a tenté, le film Babylone ? Vous avez raté la fête, vous avez peut-être réussir le film.
J'avais bien aimé La La Land, donc ouais, je pense que j'irai le voir.
Ça dure plus de 3 heures. Voilà,
ah ouais,
lire, prenez votre temps, prenez votre
marinière. C'est-à-dire plus de 3 heures, ça fait combien ?
Ça fait un peu 3h05, 3h10, je sais plus.
Il faut prévoir un pique-nique. Hein.
Ouais. Un petit goûter, des pop-corn.
Merci beaucoup Olivier Benkemoun, c'est la dernière ligne droite de Culture Média. La grande Sophie est avec nous, à tout de suite.
9h, 11h,
Europe 1, Culture Média.
Philippe Vandel.
La mer, c'est pas Charles Trenet, c'est la grande Sophie, ça fait partie de son nouvel album La Vie Moderne. Il y a une chanson aussi qui dénonce, vous dites on n'est pas des numéros, vous dénoncez quoi ? Les comptables, les classements de disques, le streaming
On est vachement dans l'algorithme, de plus en plus même. Ouais. Je sais que j'ai entendu dire que les maisons de disques ne signaient plus d'artistes s'ils n'avaient pas un nombre suffisant de followers. Ça va même jusqu'aux salles, il paraît maintenant, qui regardent un petit peu. On a tendance à regarder plus les chiffres que d'écouter la chanson en elle-même.
Les salles de spectacle
aussi, ouais. J'ai entendu ça récemment. Ouais.
Voilà, on a parlé ici, on a fait un truc sur les algorithmes et sur les followers. Il y a des restaurants qui sont ouverts, qui font de l'avocat, vous savez pourquoi ? Parce que c'est ce qui est le plus instagrammé, les plats à base d'avocat, parce que le verre est extrêmement photogénique. Même si c'est pas bon à manger, c'est pas grave, on met de l'avocat. Et il y en a sur toutes les cartes maintenant de restaurants, d'influenceuses. Vous chantez dans la chanson qu'on en est tout à l'heure, l'escalier, tu seras du lait, tu boiras du petit lait. Apprends à pédaler, tout ça dure pas. Vous avez connu le succès, vous avez connu aussi les vaches maigres comme dans toutes les carrières. C'est remonté. Comment vous vivez tout ça avec le recul, déjà 25 ans de carrière, et vous avez jamais cessé quand même d'être toujours là?
Bah, en fait, j'en ai eu conscience très tôt de tout ça, qu'une carrière d'artiste c'était un petit peu les montagnes russes. Moi, ce que j'ai travaillé au fur et à mesure des années, c'est mon indépendance aussi. C'est vrai que je peux être totalement indépendante, c'est-à-dire que pour faire mes maquettes, l'enregistrement, je fais même des musiques de téléfilms, je les fais seule dans mon studio. Donc voilà, j'ai acquis cette indépendance-là avec les années.
Le studio, c'est chez vous?
Ouais.
Vous répétez chez vous, avec des amplis, etc. Vous avez un grand sourire. Ils disent quoi, les voisins? Quand vous êtes sur votre gratte et que vous énervez, que vous mettez tout saturé.
J'ai les meilleurs voisins du monde, en fait.
C'est-à-dire?
Bah, ils sont super. Je les adore parce que même quand je pars en tournée, ils mettent des petits plats sur les escaliers pour mon mari, pour prendre soin de lui. C'est génial. Ils sont géniaux, mes voisins.
Attendez, votre mari ne sait pas cuisiner?
Si, mais ils prennent soin de lui.
Et sinon, c'est vous?
C'est ce qu'on appelle de l'attention.
D'accord, voilà. J'aurais jamais imaginé ça.
Ah, ils sont super, mes voisins.
Il y a des chansons aussi joyeuses sur cet album, comme le titre Vendredi. On est mercredi, mais on entend quelques notes.
Ne te ressemble, on récidive, on blesse si bien ensemble. Dis-moi, on se voit quand? La réciprocité n'est pas facile. Quand on l'a capturée, ça a du style. Dis-moi, tu reviens quand? Je t'attendrai vendredi, mais nous verrons vendredi. On fera les fous, oh, oh. On verra ça vendredi. Tu me diras vendredi, le reste on s'en fout.
C'est vous qui faites la choriste?
Ah oui, j'adore.
Les ou ou ou. Vous allez vous mettre à la disco, ça sent le titre.
C'est
de
plus funky, ça. Ouais. Ouais, j'ai adoré faire le petit riff guitare, je me suis éclatée.
Ça sent la fin de concert, ça, non?
Les gens, ouais, ils adorent la chanter. Ouais, ils adorent ça.
Attendez, les gens adorent la chanter? Oui. Mais ils la connaissaient pas parce qu'il s'est passé quelque chose d'assez extraordinaire avec cette tournée et cet album, c'est que vous avez commencé la tournée avant même que l'album soit sorti. Normalement, j'explique, en termes de marketing, ça se fait pas. La tournée promotionne l'album et l'album promotionne la tournée. Et là, pourquoi ce décalage?
Bah, en fait, c'est les effets secondaires du Covid aussi. Et j'ai eu un changement de label en plus, donc c'était un peu compliqué pour réussir à tout gérer. Donc on a préféré décaler, mais bien de...
Mais les dates qui étaient lancées, vous les avez
faites
quand même.
Oui, j'ai gardé la tournée, parce que moi je viens de la scène et c'était important pour moi de continuer. Et donc je leur expliquais aux gens, j'aime bien prendre la parole, leur raconter des histoires, et puis ils me suivaient, quoi. Donc même sur des titres qu'ils ne connaissaient pas forcément encore.
Ah bah oui, c'est formidable.
Bon, vendredi, je sais plus s'il était sorti en single. Si, il était sorti en single, donc c'est facile à chanter.
Alors, la tournée s'est arrêtée, mais elle reprend. Grosse tournée à partir du mois de mars, ça va durer jusqu'en juin. Vous serez à Bruxelles les 9 mars, à Deauville les 11, à Nantes le 16 mars, à Montpellier le 23, à Toulouse le 29, Bordeaux le 30, Lille le 6 avril, Rennes le 11 avril, Strasbourg le 14 juin, et encore beaucoup. Quelle configuration?
On a dit la cigale le 12 avril?
Non, on l'a pas
ben
dit.
Voilà,
je
la cigale
pas.
Le 12 avril.
La cigale à Paris le 12 avril.
Voilà.
Quelle configuration? Il n'y a pas vous toute seule avec,
non,
avec votre alter ego?
J'ai trois musiciens, une musicienne, Louise Thiolon, ouais. Mathieu Penaud et puis Thibaut Barbillon avec moi.
Ouais.
C'est la même équipe que la tournée précédente.
Et ailleurs, il y a ce feu de camp avec des néons.
Ouais, ouais,
c'est-à-dire,
ouais.
Mais comment ça marche?
Ah, il faut venir voir, mais il marche très très bien et je peux vous dire que c'est chaud, chaud, chaud sur scène.
Alors, vous dites, quand je vais voir un concert, j'aime avoir des frissons, que ce soit pas de la performance extérieure avec des tonnes de lumière qui clignotent dans tous les sens. Comment vous faites-vous? Alors, vous savez, éclairé, il y a les néons, il y a deux lampes de poche.
J'essaie de réduire parce que... à force d'aller voir des concerts, j'en avais marre des trucs qui clignotent dans tous les sens. Parfois aussi, j'en ai... Il y a quelque chose qui me gêne quand ça sent trop le fric, tu vois. T'es là et tu dis, oh mais en fait, c'est... c'est que de l'argent, moi je veux voir l'artiste. Mmh. Et voilà, donc j'ai réduit au minimum de ce qui me semblait essentiel, ce que j'essaie de faire en musique aussi. Et là, se concentrer autour de ce feu moderne, eh bien, je trouve ça très chaleureux.
Vous jetez toujours dans la foule à plat ventre ou ça vous avez arrêté?
J'ai arrêté, mais j'ai repris le saut à la corde en échange. Parce que je faisais du saut à la corde sur mon premier album.
Sur scène?
Oui, et je l'ai beaucoup fait. Et là, j'ai repris. Donc, oui, je fais des choix comme ça.
Ces gens sont complètement fous. C'est dingo. Vous arrêtez quand de sauter dans la foule? Je crois que vous étiez la seule fille qui faisait ça, se jeter à plat ventre.
En plus, parce que je voulais voir où j'allais, surtout. Donc c'était assez drôle. Non, j'ai vu qu'il y avait d'autres artistes qui le faisaient maintenant, mais c'était très drôle parce que des fois, je partais loin, les musiciens ils se demandaient quand j'allais revenir. Mmh. Et parfois, il m'est arrivé aussi que les videurs qui sont sur les gros festivals, vous savez, qui sont bien devant, je leur demandais de me faire la courte échelle pour que je remonte sur scène et il y en avait qui ne voulaient pas. Et je devais faire tout le tour. des histoires de dingue comme ça.
D'où des solos de batterie interminables.
Ouais.
Merci beaucoup, elle dit ouais en plus. La grande Sophie, merci d'avoir été avec nous. Nouvel album, La vie moderne, avec la grosse tournée qui arrive. Et La Cigale, c'est le
12 avril.
12 avril à Paris. Merci d'avoir été avec
nous. Merci beaucoup.
Nous, on se retrouve demain à 9h pour Culture Média. On va parler d'un docu-fiction choc ultra original. Il parle du gigantesque fiasco judiciaire que fut l'affaire Outreau. Le réseau pédophile, suspicion de meurtre, ça a fait l'objet de 4 épisodes réalisés par Agnès Pizzini et Olivier Ayache-Vidal. Ils seront avec nous. Et puis, faut-il le présenter, Gad Elmaleh, l'humoriste, pour son nouveau one-man show d'ailleurs, qui passe sur Canal+. Juste après le flash,